still remains in prison. Stay, thanks.
Abesti batean esaten duena ez dagoelako bat.
La Pierrot de Mbanga est aujourd'hui à la prison New Bell de Douala.
Cameroun must change.
Vous avez fait des motions de soutien et les marches contre le multipartisme. Le pays tout entier a été mis à feu et à sang. Les Camerounais ont perdu certains leurs biens et d'autres leur vie. Face à la pression populaire, Rependos vous en aime. Il a cédé au pouvoir de la rue et le multipartisme a été réinstauré. 17 ans après, adepte de la provocation, ennemi de la République, vous voici de retour. Hanté par le spectre d'un 2011, certain, mais lointain. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Méfiez-vous de Marché Ndia.
2011, c'est certain, et c'est déjà présent. 2011, c'est lointain, et déjà d'actualité. 2011, c'est certain, et c'est déjà présent. 2011, c'est lointain, et déjà d'actualité.
Le peuple est prêt à marcher et même à courir. Le peuple est prêt à signer des pétitions.
Voilà, 10 boutiques ce soir sur Radio Panique 105.4, 10 boutiques donc. Alors comme le sujet ce soir, ce n'est pas notre habitude, on ira investiguer dans le folk. Mais avant ça, on entendait un musicien qui s'appelle Lapiro de Mamga et qui est emprisonné au Cameroun à cause de la chanson qu'on vient d'entendre. Qui s'appelle Constitution Constipée et qui critique la constitution camerounaise. Et donc ce monsieur est en prison. Alors il y a une action qui se passe sur Mondomix pour signer une pétition pour envoyer au gouvernement camerounais. Je vous donne le lien internet http://mp3.mondomix.com/liberon-lapiro L-A-P-I-R-O. En tout cas, bah, vous allez voir sur le site djiboutique.be et vous trouverez ce lien pour signer la pétition pour la libération. Et en signant cette pétition, voilà une très bonne chose, vous pourrez aussi télécharger gratuitement une compilation d'artistes qui ont produit des chansons spécialement pour cette action.
This because one of his songs disturbed the local authorities. Qu'il est en prison aujourd'hui.
Det var så vidt med en af hans sange. Thank you.
Voilà, Djibouti, donc, pour nous parler de folk aujourd'hui, enfin de folk, qu'est-ce qu'on doit dire, hein, musique traditionnelle, musique folk, musique du monde, c'est toutes des choses, toutes des catégories qui sont un peu floues, hein, en tout cas pour moi. Alors, ben, ce soir, on va dire le folk, hein, pour que ce soit plus clair pour les auditeurs. Pour parler de folk, avec moi, il y a Arnaud de Gimbe, qui fait partie du duo Luc Pilarts, Arnaud de Gimbe, et qui sort un CD justement en ce moment. Bonjour Arnaud.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Très bien.
Super. Alors, il y a un CD qui sort. Est-ce qu'il a un nom particulier ? Ça, j'ai pas remarqué. Tiens, j'ai pas lu.
Oui, alors c'est Le Sac et la Corde.
Le Sac et la Corde. Tu nous expliques pourquoi ?
Le Sac pour la cornemuse.
Voilà.
Et la corde pour les cordes du crin, le crin de cheval, le crin,
ouais,
pour l'archet ou la corde du violon.
D'accord. Voilà. On vient d'entendre un morceau d'introduction, ce sont une suite de bourrées. Ce sont des bourrées de quelle région ?
Oui, alors c'est des airs traditionnels auvergnats, donc qui viennent du massif central, vraiment, donc la région qu'on appelle vraiment la Basse Auvergne, donc c'est vraiment le massif central. Et donc les bourrées sont des danses traditionnelles que l'on danse beaucoup là-bas encore, à l'heure actuelle. Et... voilà.
D'accord. Alors, bon, puisque nous ne sommes pas très intrus dans les milieux du folk, est-ce que tous les musiciens de folk sont encore avec des sabots et des vieux chapeaux traditionnels ? Ou est-ce qu'il y a, comme toi, des jeunes musiciens folk qui remettent un peu au goût du jour cette musique ? Parce que ta mission ce soir, hein, je te l'ai dit maintenant, je t'en ai pas encore parlé, c'est de rendre la musique folk un peu sexy. Hein, parce que l'image qu'on en a... c'est un peu des barbus, vieux
oui,
hippies.
Avec la paille qui sort des sabots et le verre de vin. Oui. Non, en fait, depuis les années 60, il y a ce qu'on appelle le revival folk en Belgique. Disons que il y a, depuis les années 60, toute une série de personnes se sont attachées à la... à faire revivre, d'où le terme revival,
ouais,
faire revivre les mélodies populaires, les mélodies traditionnelles anciennes. Donc bon, on va dire que les premiers à avoir vraiment recommencé ça, je pense, en tout cas ceux qui nous ont le plus influencés en Belgique, en France ou en Hollande, c'est les Irlandais, parce que bon, ils ont été, ils n'ont pas pu jouer leur musique traditionnelle pendant leur, c'est toute cette période où ils étaient
sous domination anglaise.
Voilà, et donc à partir des années 60, eh bien, il y a eu un boom de la musique celte absolument très très important, qui a généré
une nouvelle attention vers les musiques du terroir, de chaque terroir dans chaque pays européen.
Voilà, donc c'est un peu dans cette mouvance que la Belgique, la France a vraiment recommencé, enfin a fait ce travail aussi de collectage. Donc à partir des années...
Alors, dis-nous un peu ce que c'est qu'un travail de collectage, parce que je crois que les auditeurs ne savent pas ce que c'est.
Par exemple en France, parce que bon, moi je joue à la base de la musique traditionnelle d'Auvergne, donc on va dire que c'est ma première école.
D'accord.
Dans le courant des années 70, toute une série de barbus, presque en sabots, je veux dire en jeans, sont partis en deux chevaux arpenter les villages de partout en France pour enregistrer des musiciens ou les dernières reliques d'une tradition, je veux dire, quasi oubliée. On va dire en Auvergne, c'est encore très très différent qu'en Belgique, parce que bon, en Auvergne, il y a... une communauté auvergnate qui a émigré à la moitié du 19e siècle,
ouais,
qui est allée à Paris. Donc il y a eu un échange, je veux dire, il y a une activité traditionnelle, je veux dire un traditionalisme qui est toujours très très présent, mais dans certaines régions c'était je veux dire presque oublié. Donc le tout dans le collectage, c'est de rechercher des manuscrits, des airs qui ont été collectés aussi il y a très longtemps, essayer de rechercher des manuscrits, de mélodies très anciennes, Mais ça peut être aussi tout simplement partir avec son enregistreur.
Dans les villages reculés, retrouver des musiciens qui jouent toujours le répertoire d'une certaine époque.
Oui, mais certains ne jouaient même plus. Donc il fallait aussi...
Dépoussiérer les violons, dépoussiérer les cornemuses et remettre au travail les musiciens.
C'est ça, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'avaient plus joué depuis des dizaines d'années. Et donc, il fallait aussi les rencontrer, gagner leur confiance. Et puis, donc il y a tout ce travail de fond qui s'est fait. Et fort heureusement pour les musiciens comme nous, maintenant, enfin, les plus jeunes,
Ça tombe bien, parce qu'on reparlera, je crois, de l'histoire générale, un petit peu de ce mouvement de revival folk. Mais toi, puisqu'on parle de ton CD... Où tu t'inscris dans cette histoire ?
Moi, avant tout, je ne sais pas vraiment pourquoi je fais cette musique. Je sais que ça me touche profondément. Je veux dire, la simplicité de la mélodie, d'une mélodie traditionnelle, je veux dire, on l'entend, la mélodie est pure. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est relativement simple, la mélodie, mais elle parle. En tout cas, elle me parle beaucoup.
Et tu essaies, j'imagine, en enregistrant, qu'elle parle à d'autres gens.
Oui, ça c'est mon... Oui.
C'est un objectif, j'imagine, comme beaucoup de musiciens. Mm. Ouais. Mais toi, tu es arrivé à la musique folk, je ne sais pas, tu étais un fan de rock à la base, tu étais un fan de chansons françaises. Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique folk ?
Avec le recul, je pense que j'ai été attiré très fort par d'abord l'instrument, la physionomie de l'instrument, la caractère mystérieux aussi, je veux dire, de la cornemuse, comment ça, on se pose toujours des questions, comment ça fonctionne, comment ça... Oui, c'est une symbolique aussi très forte, donc on va dire que c'est ça qui m'a attiré, et puis la puissance du son. Et puis, un peu avec le recul, je pense que c'est aussi tout ce qui est lié à la fête, lié parce que c'est plus... je pense que c'est une musique qui est un peu plus liée à quelque chose de très terrien, je veux dire, c'est lié à la danse, donc je suis danseur de formation aussi, donc il y a quelque chose qui fonctionne dans ce sens. Oui.
D'accord. Ok. Je te propose qu'on écoute un deuxième extrait de ce CD, Le sac et la corde.
Oui.
C'est ça. Hein oui. Donc, par le duo Pilarts de Jambes. Mmh. Vous avez des concerts prévus, là ?
Alors, on a un concert prévu. On ne connaît pas encore vraiment la date, malheureusement, sur Le monde est un village.
Sur
l'autre radio, oui.
On peut en parler, il n'y a pas de souci.
Mais non, nous n'avons pas... Parce que le CD est tout récent. Donc il faut qu'on nous...
Il est tout frais, hein. Je ne sais même pas encore s'il est dans les magasins. Il est apparemment, tu m'as dit, en vente sur Internet, sur certains sites.
Oui, et il sera bientôt en vente à la FNAC. Ouais,
d'accord.
Voilà, en France, en Belgique, dans le Benelux et en France.
Ouais. Ok. Mm. le duo Pilarts de Jambes, de son CD qui est en train de sortir, qui va arriver près de chez vous. Alors, pour un Béotien comme moi, cette musique, moi ça m'étonne que ça vienne de l'Europe. J'ai l'impression d'entendre une musique un peu méditative, je sais pas, de plaine, de la Russie ou de la Mongolie. C'est vraiment très étonnant. Hein. Alors, ton répertoire, ça va de quelle région à quelle région? Est-ce que c'est une région précise?
Moi, ce qu'on essaye déjà de faire dans notre démarche, enfin, on va dire notre démarche, c'est vraiment de, avant tout, jouer les mélodies qui nous plaisent. Mmh. Oui. Les mélodies qui sont cornemusables, parce qu'il faut, bon, c'est un CD essentiellement de cornemuse, enfin, la cornemuse est omniprésente sur le CD. Donc,
Est-ce que tu veux dire qu'il y a des morceaux qui à la base ne sont pas joués par des cornemuses, mais que vous avez adaptés pour la cornemuse?
C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc il y a des mélodies par exemple hongroises, qui n'est pas jouée à la cornemuse au départ, mais qui va être jouée par la vielle à roue, et donc qui sonne très très bien sur une cornemuse. Et donc voilà, il y a des airs de la Renaissance qu'on va réadapter. On joue des airs de Lombardie, d'Italie, donc la région de... des Apennins, hein, dans le nord de l'Italie, des airs de Galice, des airs de Suède.
Et comment se fait le choix de ce répertoire?
C'est le coup de cœur, et puis c'est aussi, on essaye de voir aussi les morceaux qui peuvent se marier, hein, ensemble. On essaye de faire en sorte aussi que de rendre la cornemuse peut-être moins sauvage qu'elle ne l'est, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'écouter de la cornemuse pendant une heure. Ah, hein. Ah. Et donc il faut aussi faire connaître cette musique et connaître l'instrument à un public plus large. Et donc on fait en sorte que d'aller chercher des mélodies de couleurs différentes. Moi j'utilise sur... cet album de trois types de cornemuses qui viennent de la même région, donc toujours basse et haute Auvergne, mais de tonalités différentes. Donc une très aiguë, une plutôt médium et une très grave. Et donc c'est chaque fois, on va dire, des ambiances sonores différentes.
Quoi. D'accord. Pour un béotien comme moi qui pensait que la cornemuse n'était qu'en Écosse, la cornemuse c'est une tradition qui est dans toute l'Europe. On en a un petit peu parlé pour préparer l'émission. C'est une tradition très ancienne, c'est un instrument très ancien et qui s'est répandu dans toute l'Europe. Il n'y a pas qu'en Écosse les fameuses cornemuses écossaises les plus connues, oui. Y en a partout.
Il y en a dans tous les pays en Europe, oui, tous les pays européens, dans tous les pays en pourtour de Méditerranée, donc y compris en Afrique du Nord. Uh-huh. Les premières traces de cornemuse ont été plutôt retrouvées en Russie, en Finlande, en Inde. Donc voilà, la cornemuse n'est pas à la base un instrument, on va dire, celtique. Je veux dire, ce n'est pas, la cornemuse écossaise est surtout connue par le fait que ce soit un pays, que ce soit une île, que ce soit une cornemuse utilisée par l'armée. Donc elle est, je veux dire, c'est devenu un symbole nationaliste, enfin, je veux dire, culturel. Donc c'est un instrument très puissant et puis qui fait partie aussi évidemment de cette vague, cette mode celtique actuelle, ça date.
D'accord. Alors sur ce CD, tu joues avec un comparse qui s'appelle Luc Pilarts, qui lui est relativement connu dans les milieux folk pour sa pratique du violon. Bon, il n'a pas pu venir ce soir, mais tu peux nous dire un peu qui c'est, quel est son parcours?
Eh bien... Luc Pilarts, est un musicien belge, un violoniste qui, musicalement, est fort intéressé par justement, est intéressé à aborder différents genres musicaux, à essayer de se les approprier le mieux possible, quitte à aller en Roumanie, pour s'imprégner de.
Il voyage, il rencontre les musiciens. Voilà. D'accord.
Et donc, c'est quelqu'un qui aime mélanger les genres musicaux, qui aime les techniques de... Bon, il est violoniste, il est aussi cornemuseux. On va surtout parler de lui en tant que violoniste, hein, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à la musique classique, il s'intéresse à la musique de Suède, il s'intéresse à la musique traditionnelle pour violon d'Europe de l'Est, répertoire tzigane. Donc, il a également sorti un album sur la musique traditionnelle wallonne.
Oui, on en entendra un morceau tantôt. Ouais.
Et donc, ça fait, ce qui fait que il propose dans son jeu, évidemment, une palette sonore extrêmement riche. Ce n'est pas... il a une palette sonore très, très, très riche, évidemment. On va pouvoir jouer un air... par exemple, Auvergnat, donc de genre plutôt musette,
ouais. Hein,
parce que c'est fort influent, c'est par ce style, et en même temps, y rajouter des sonorités tziganes. Donc c'est un peu, on recherche un petit peu ces confrontations de genres. Bon,
d'accord, bah, écoute, voilà. Je te propose qu'on entende dans ce CD sur les musiques de Suède. Je ne sais pas comment s'appelle le morceau, mais vous allez l'entendre.
Alors, oui, c'est le premier morceau est une polska, donc c'est une danse traditionnelle de Suède. Et le deuxième est un reel canadien composé par Jean, je ne sais plus.
Jean-Jean.
Plus tard. Jean-Jean. Voilà.
Thank you.
alors une polska jouée par Luc Pilarts. Alors, j'étais en train de lire les titres des chansons. Alors, c'est plein de termes barbares. Hein. Polska d'après CJ Borklund.
Oui.
Et un reel pour violon accordé en viol. Alors voilà. Alors,
de là, Jean Carignan, voilà, pour ceux qui rejoignent.
Jean Carignan, voilà. Exact, exact.
Non,
exact.
Non, Jean-Jean.
Alors bon, ben, moi je pourrais, de prime abord, une Polska, ça viendrait de Pologne, mais apparemment pas, ça vient de Suède.
Oui, bon, alors je ne sais pas quel est le lien entre la Polska et la Polka, parce que c'est vrai que la Polka vient de Pologne,
ouais.
Comme la Mazurka aussi vient de Pologne. Et voilà, maintenant, est-ce que c'est la Polska viendrait de immigration de hein, du thème, de la danse, hein, je veux dire, la danse aurait voyagé vers ces pays nordiques, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre.
Mais... Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans, par exemple, dans la musique d'Amérique latine, ben, on entend aussi, il y a des polkas, il y a des mazurkas. Mm-hmm. Toutes ces musiques ont voyagé à travers le monde. Mm-hmm. Toi, tu vas peut-être nous expliquer, pas tout le voyage, tous les voyages, parce qu'il y en a plein. Tu nous proposes de commencer par un morceau de la Renaissance, si je ne me trompe pas. Hein.
C'est un air baroque, on va dire, qui était... bon, il se trouve que pendant la période baroque, mais déjà avant, à la Renaissance, la musique savante s'est fort influencée des musiques populaires et réciproquement. Donc les musiciens populaires sont aussi forts à un moment donné influencés de la technique de jeu des musiciens savants. Et donc, il se trouve que pendant la période baroque, les baroqueux, enfin, c'est les musiciens de cette époque, ont vraiment, par exemple, dans le cas d'accordemuse, ont inventé la cornemuse de cour et se sont, on va dire, amusés à représenter des scènes pastorales à la cour. Donc, ils ont repris des danses traditionnelles.
Ouais.
Et ils en ont fait des chorégraphies. Et puis, il y a des compositeurs comme Marin Marais qui ont composé des suites de danse. Donc là, on parle vraiment de musique savante.
D'accord. Donc, tu veux dire, il y a un voyage entre les musiques rurales, typiquement des villages, jouées par exemple, pour les bals, et la musique jouée dans les milieux plus bourgeois, plus intellectuels, où là, on réécrit, on structure, on chorégraphie les danses, et il y a un incessant va-et-vient entre les deux, en fait.
Oui. Oui, bah le va-et-vient. Enfin, pour moi, le plus fort, c'est justement un peu plus tard. Enfin, c'est pendant la période romantique, que ce soit au niveau littéraire ou au niveau musical, au niveau pictural aussi. Hein, il y a énormément de représentations ce souci romantique, hein, de revenir aux D'accord. cultures ancestrales, etc. Donc,
c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Hein. On pourrait dire qu'on vit une période un peu romantique. Hein. On revient un petit peu aux fondamentaux, comme ça.
Oui, bah, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant de sentir que finalement, le romantisme de George Sand, par exemple, le romantisme littéraire, on sent que c'est évidemment c'est une manière de parler de la ruralité. Quand on elle parle des maîtres sonneurs, des cornemuseux du centre France, elle met en avant, elle romantise complètement le milieu rural. Et c'est étonnant de voir aussi comment ce courant a l'influence encore maintenant. Mais en même temps, maintenant, c'est clair qu'on manque d'identité culturelle. Je veux dire, tout a tendance à s'internationaliser. Et donc, je pense que ce revival folk vient aussi de ce besoin de retrouver des racines,
Absolument.
De s'ouvrir et de retrouver des choses simples. Voilà, c'est...
Tout à fait. Voilà. Alors, on va se protéger à l'ombre des ormeaux. Le morceau que tu nous as préparé...
C'est un chant.
Thank you.
Voilà, alors merci. Effectivement, là, on voit le rapprochement entre la cornemuse rurale et la cornemuse un peu apprêtée, on va dire.
Cornemuse baroque, hein, cornemuse voilà. De cour. Ouais.
Cornemuse de cour, effectivement, où on l'entend encore et on a l'impression de cette touche rurale, mais c'est tellement écrit, tellement apprêté, que on retrouve un petit air, mais vraiment au fond, quoi. Voilà, alors ça illustre bien effectivement que cette espèce de va-et-vient dont on parlait entre la musique rurale et la musique plutôt bourgeoise, musique de cour. Est-ce que ce va-et-vient a continué encore longtemps après la période romantique, par exemple?
Oui, enfin, je pense que c'est incessant.
Ok.
Parce que c'est incessant à l'heure actuelle, surtout avec le phénomène de world music.
Ouais.
Qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, je veux dire, on va dire que bon, il y a une vingtaine d'années, on a vraiment remis en avant des musiciens traditionnels non occidentaux qui du tiers monde la plupart du temps, qui s'accompagnaient d'instruments traditionnels. Et donc, il y a vraiment un souci de mélanger les genres, de faire évoluer une musique ici traditionnelle, quoi. Oui.
Ouais. Et alors moi, une question qui me brûle les lèvres, et je crois que tu la connais, hein, c'est comment ça se fait que dans l'Europe du Nord, les traditions musicales ne sont pas reprises par les jeunes générations actuelles? En Amérique latine, par exemple, il existe des groupes, et on va en entendre un, qui reprennent de la cumbia, mais version électronique. Mm-hmm. Alors que la cumbia, c'est vraiment un rythme ancestral qui vient d'Afrique, qui est allé en Colombie. Mm-hmm. Comment ça se fait qu'en Belgique, ici, il y a très peu de groupes, je dirais, de musique moderne, entre guillemets, qui se revendiquent de ces racines?
Eh bien, justement, je pense qu'en France et en Belgique, encore une fois, pour parler de ces deux pays, parce que je ne connais pas vraiment ce qui se passe, mais c'est depuis donc, ce que je disais tout à l'heure, ce revival folk, en France comme en Belgique, il y a des associations qui sont nées, il y a de plus en plus de musiciens, les facteurs de cornemuse croulent sous le travail, il y a des groupes qui naissent à n'en plus finir. Donc voilà, je pense qu'au contraire, il y a plutôt cette musique a tendance à se professionnaliser de plus en plus.
À se professionnaliser, mais pas trop à se mélanger au nouveau genre. C'est ça qui est étonnant. Un petit peu plus en France. Hein. En France, on voit la musique bretonne. Il y a des groupes de rock qui reprennent un peu la musique bretonne. En tout cas, en France. Il y a déjà peut-être un petit peu plus ça, mais en Belgique, vraiment, moi, je n'ai pas encore entendu, par exemple, un groupe qui faisait de la musique électronique et en se revendiquant, je ne sais pas, de racines, de rythme ou de mélodie.
Oui, je pense que c'est vrai que... C'est vrai que je pense que la pratique des musiques traditionnelles, enfin en tout cas, selon les observations, maintenant que tu poses cette question, ça reste très fort lié à ce que nous on fait, donc une recherche musicale de répertoires très différents, ou de pays différents, ou bien il y a toujours cette connexion de répertoire à danser. Donc on va développer une musique pour on va créer tout un répertoire dans le but aussi de faire danser des gens. Donc il y a énormément de balles qui sont organisées. Il y a vraiment maintenant c'est vrai que de là à mélanger de la musique électronique, je connais pas honnêtement.
Ouais, parce qu'on a l'impression que ce milieu effectivement folk est assez vivant, mais reste un peu cloisonné, fermé dans un circuit particulier, qui n'est pas très médiatisé, par exemple. Hein, on n'entend pas du tout ce genre de musique en radio. Un petit peu quand il y a eu la grande vague au nord de la Belgique, en Flandre plutôt, avec Laïs et quelques groupes dans ce genre-là. Oui. Mais ça reste quand même assez marginal, quelque part.
Ouais, c'est vrai que c'est, ça n'a rien à voir avec des gens comme en Angleterre, comme MIA, où, où justement, tu parlais tout à l'heure de cette musique afro-cubaine.
Ouais,
enfin, oui,
ouais.
Et puis, voilà, enfin, y a des, c'est vrai qu'il y a des genres musicaux qui se mélangent davantage. Moi, je pense plutôt, quand on parle de mélange, je pense tout de suite au jazz, évidemment, qui est voilà, à la base de la musique traditionnelle. Je veux dire, tout, c'est basé sur des rythmes africains. Et, ouais. Puis, et puis, ils se sont mélangés à la, la variété américaine. À la musique populaire américaine et puis voilà, ils ont créé des nouveaux rythmes et donc on va dire que le rock et le jazz sont vraiment deux genres musicaux qui se prêtent bien à ces mélanges justement. C'est, moi je pense tout de suite à ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jazzmen qui s'intéressent aux musiques populaires par contre c'est...
Tout à fait.
Notamment Luc Pilart.
Alors, pour te donner l'exemple de ces musiques latino-américaines qui gardent les rythmes ancestraux, mais dans des versions tout à fait modernes, voici Bomba Estéreo et Fuego. Voilà, Bomba Estéreo avec Fuego, voilà, comme tu peux le voir, hein, donc ces rythmes ancestraux, mais joués d'une manière tout à fait moderne. Bon, il ne reste pas grand-chose des vrais rythmes ancestraux, c'est beaucoup plus basique comme rythmique. Alors, on va revenir à la musique, la tradition en Belgique. Tu m'avais aussi parlé que ça s'était coupé à cause de l'industrialisation, hein, que donc moins de fêtes de village. Puis il y a les moyens de reproduction de la musique qui sont arrivés, donc les musiciens jouent moins. Il y a des sons qui arrivent du monde entier, donc on s'intéresse un peu moins à ce qui se passe chez nous, mais on commence à s'ouvrir au monde. Donc j'imagine que ce sont aussi des raisons pour lesquelles les traditions belges ont un peu disparu.
Oui. C'est vrai que c'est un ensemble de choses qui font que les... une pratique instrumentale évolue ou disparaît ou ici c'est vrai que en Belgique par exemple dans la tradition du violon et de la cornemuse forte il y a eu en Belgique c'est pas encore certain ça a disparu assez tôt enfin le violon on a retrouvé que quelques manuscrits de Jamin ou de Hussa, dont Luc Pilart a fait des recherches sur ces manuscrits.
Il y avait plus personne qui jouait du violon. Il n'a pas pu retrouver des gens qui avaient conservé oralement une tradition violon. Ça avait complètement disparu.
Il y a beaucoup de régions en Europe où ça avait complètement disparu à cause des grandes guerres. Bon, il ne faut pas oublier que...
Les musiciens étaient un peu de la chair à canon.
Je ne sais pas si on envoyait les musiciens en première ligne. En tout cas, c'était dans le cas de l'Auvergne ou de la Bretagne, par exemple, c'est les cutéreux. Enfin, je veux dire, ce sont les gens... Donc, on les envoyait en première ligne. Et bon, énormément de musiciens sont morts pendant la première Grande Guerre mondiale. Et donc voilà, en plus avec la période industrielle, c'est clair que les espaces changent au niveau du chant, le chant traditionnel. Hein, il n'y a plus aucun sens de chanter dans son tracteur, dire ça.
Ouais.
C'est, donc il y a évidemment un espace, un espace sonore qui change complètement. Les mœurs changent complètement. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui me disait que les seules sorties qu'elle faisait vraiment quand elle était jeune, c'était pas des sorties justement, où c'était très peu, mais en fait les gens venaient chez elle, ou elle allait chez les gens faire de la musique, tout simplement parce que c'était leur manière de faire la fête, quoi, en fait, de se voir, de faire de la musique ensemble. Bon, il se trouve que ma famille était musicienne à cette époque. Donc voilà, c'était leur manière. Donc les gens se rencontraient, on va dire, dans des bals populaires. Ils allaient choisir leur futur mari ou leur futur dans les bals. Donc
la musique avait vraiment une fonction pratique en fait de médium social.
C'était vraiment on n'essayait pas de mélanger les genres.
J'imagine que les musiciens quand même dès qu'ils entendaient un petit air à danser qui pouvait les démarquer d'un autre orchestre du village à côté, ils se gênaient pas pour essayer d'adapter ça.
Oui, mais je veux dire, ici, on est tellement bombardé d'informations différentes qu'on va mélanger parfois pour un oui et pour un non les genres. Et c'est mon opinion, mais je veux dire, je pense que les gens, quand je remonte à, je sais pas, au début du 20e siècle, les gens apprenaient une mélodie. Mais c'est parce que ils avaient été au bal dans le village d'à côté, et alors ils la mémorisaient. Il y avait un travail oral, mais parce que c'est comme ça que ça allait. Ou bien quelqu'un rentrait dans leur maison, leur apprenait une mélodie. Et donc, donc ce qui était visé, ce musicien apprenait cette mélodie, mais c'était pas non plus de la musique écrite. Donc, immanquablement, les gens transformaient complètement les mélodies. Donc on se retrouve face à un matériel sonore, une musique qui était en mouvement en permanence déjà.
D'accord. En perpétuelle évolution. Je suis désolé Arnaud, je crois qu'il y a encore plein de choses à dire, mais il est 6h-2. On va devoir déjà même un peu empiéter sur l'heure suivante. On va se quitter sur des mélodies wallonnes au violon par Luc Pilarts. C'est un menuet, mais tu m'as dit que c'est pas très loin de la contredanse, en fait.
Bah, c'est le menuet de l'ermite et une maclotte. En fait, ce sont des danses qui se retrouvaient justement dans les contredanses très en vogue en Angleterre, d'abord XVIIe siècle, et puis après ça s'est propagé en France, en Belgique, en Hollande. C'était des danses extrêmement à la mode. Et notamment en Belgique, donc on retrouve beaucoup, beaucoup de ce répertoire maintenant.
Ok, manuscrit. Merci Arnaud pour toutes ces précisions. Et effectivement, le folk est un peu plus sexy maintenant.
Ah, merci.
Avant de se quitter Djiboutique ce soir, je voudrais juste vous annoncer que sans doute la semaine prochaine nous recevrons Thierry de l'Espace Sangor qui viendra nous présenter le week-end de musique des Balkans, puisqu'il y aura 3 soirs de musique balkanique ou proto-balkanique, on va dire. Au Sangor, le 28 janvier, il y aura Romengo, qui sont les tziganes de Roumanie. Je vous les conseille, c'est vraiment très bon. Le 29 janvier, il y aura Yom, qui est de la musique klezmer, donc de la musique juive, mais très influencée par la musique d'Europe de l'Est, évidemment. Et le 30 janvier, on vous en a parlé il y a 2 semaines de cela, il y aura le concert de Martin Lubenov, un tzigane de Bulgarie. Voilà. Et puis alors, dans 2 semaines, nous recevrons les organisateurs des soirées Gelatina, qui ont plus de rapport avec Bombay Stereo qu'on a entendu aujourd'hui, donc qui font des mix de musique latine électronique. Voilà, et ben bonne soirée, et à la semaine prochaine, à la semaine suivante, à la semaine encore après, et puis à la semaine encore après. Este amana cerca te valió va dice tutte tutte magia.